bonsoir. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info de ce 23 février 2015, avec, s'il vous plaît, une équipe au complet et dans les studios, Michel, Robert et Jean-Pierre. Eh bien, on va aborder, comme à notre habitude, l'actualité internationale en faisant un grand plongeon en arrière, n'est-ce pas ?
Oui, un plongeon de 50 ans et un plongeon lié à ce qu'étaient les luttes d'émancipation, c'est-à-dire de sortie de l'esclavagisme aux États-Unis. Et dans cette dure bataille, un militant a perdu la vie. C'était le 21 février 1965, donc ça fait 50 ans, deux jours. Et il était assassiné, plusieurs balles. Il était lors d'un meeting à Harlem, New York. Alors, contrairement à ce que des fois des gens pourraient encore penser 50 ans après, il n'a pas été assassiné par des Blancs, mais il a été assassiné par des Blacks musulmans, qui d'ailleurs s'appelaient plus musulmans à l'époque. C'est-à-dire que Malcolm X avait non pas abandonné, mais il avait élargi la lutte, c'est-à-dire pour lui ça n'était plus blanc, fallait que les noirs s'émancipent de l'esclavagisme, disons de la domination des blancs, mais que fallait resituer ça, et lui il l'avait resitué dans une lutte globale des pauvres contre les riches, des oppresseurs face aux oppressés. Et cette transformation qui était arrivée chez lui à partir des années 60 a été très mal vécue par une partie du courant islamiste, notamment avec des personnages qui étaient d'ailleurs toujours actifs, Farrakhan. Et ces gens-là, finalement, ce sont eux qui le traitaient de traître et qui l'ont éliminé. Au prétexte donc qu'il ne menait pas la lutte des Noirs islamisés contre les Blancs dominateurs. Voilà, donc 50 ans. Et alors ce qui avait été la transformation de Malcolm X, d'ailleurs il faut rappeler que Malcolm X, en fait de son nom il s'appelait Malcolm Little, parce que c'était l'habitude entre guillemets, que les propriétaires qui utilisaient donc le service des esclaves donnaient un deuxième nom à leur esclave. Et le propriétaire à une époque qui utilisait les services de Malcolm, il l'avait baptisé Little. C'était Malcolm Little. Et pour rompre avec cette chose-là, Malcolm Little avait décidé de s'appeler Malcolm X, le fameux X. Et ce qui a été aussi avait été un élément de son élargissement de sa pensée vers, on va dire, la lutte des classes, et non pas la lutte blanc contre noir, lutte des classes, ça a été aussi des rencontres avec les Cubains, et notamment en 1960, il a rencontré les Cubains et Fidel Castro, et puis tout un mouvement qui fait que lui, il s'est émancipé, mais en même temps, il s'est trouvé mis par certains en accusation de traîtrise. Voilà, donc, souvenir de ce grand militant qui était Malcolm X, assassiné le 21 février 1965.
Voilà, alors si cette fois-ci on plonge en avant et qu'on fait un bond dans notre actualité du jour, par quoi faut-il commencer de parler ? Par la Grèce, par l'Ukraine ? Une préférence ? Non ? Oui ? Michel, allez, en quoi ?
On va parler de l'Ukraine. Dire que la cabale anti-russe continue, médiatiquement parlant, malgré ou à cause des accords de Minsk 2, donc du 12 février dernier, on voit que sur le terrain, malgré pour le gouvernement ukrainien, la chute de Blatsevo, de cette poche qui était entourée de combattants pro-russes et qui ont fait tomber ce verrou, ce nœud routier et ferroviaire entre Donetsk et Lugansk, donc dans le Donbass pro-russe. L'accusation de toutes les chancelleries occidentales de l'implication directe de la Russie dans le soutien militaire des séparatistes pro-russes, eh bien, on constate que le gouvernement de Kiev, maintenant, depuis Minsk 2, donc, a des contacts directs avec les insurgés et négocie donc ces accords de cessez-le-feu qui ont été signés. Et donc, en acceptant d'étendre ce corridor donc de désarmement et d'accepter que les armes lourdes soient mises à distance de 50 à 120 km selon les zones et de négocier aussi l'échange de prisonniers, chose qui a été faite ce week-end. Donc il y a des, malgré la continuation par endroit donc de coups de feu, ce qu'on constate depuis Minsk 2, c'est que de fait les deux parties donc ont commencé donc à discuter de choses concrètes en vue d'un cessez-le-feu. Alors sera-t-il global, respecté, mais c'est une première. Il faut pas non plus faire comme si de rien n'était.
On a l'impression que côté de Kiev, donc du pouvoir en place, il y a plusieurs comportements. Bon, il semble que Porochenko, en bon oligarque qui veut défendre aussi ses intérêts personnels, joue un peu sur les deux tableaux, on a l'impression par moment. Alors que le gouvernement, le Premier ministre, c'est plutôt un dur de dur. Lui, il veut rien entendre. Il n'y a que des terroristes partout. Il faut les chasser et tout. Donc, il y a ce double comportement. C'est assez... Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en penser.
C'est une réalité depuis les dernières élections. Donc, Yatsenyuk, le Premier ministre, est réellement l'homme de, je sais pas dire, de l'Europe des Occidentaux, l'homme de Washington, l'homme des États-Unis d'Amérique sur l'échiquier ukrainien. Et c'est lui qui est le jusqu'au boutiste dans cette histoire-là. C'est lui qui n'a pas accepté en l'état donc ces accords de Minsk 2. Et Porochenko apparaît, malgré sa posture un peu rigide, comme celui à même de faire donc les compromis pour que les combats cessent dans cette province. Et on voit bien que de fait Porochenko est de plus en plus isolé. Juste rappeler ces accords de Minsk globalement. C'est des accords avant tout de cessez-le-feu, mais qui impliquaient, je parle de Minsk 2, la reconnaissance de l'entité de la République démocratique de Lugansk et de Donetsk par Kiev, pas son acceptation en tant que région sécessionniste, mais en tant qu'entité avec laquelle on peut discuter directement. C'est pas rien, c'est déjà une première avancée. Ensuite, les garanties qui ont été données par les deux patrons occidentaux de ces accords, à savoir Merkel et Hollande, que l'Ukraine jamais n'aura l'autorisation explicite de la France et de l'Allemagne en vue de son intégration dans l'OTAN. Ce qui est aussi va dans le sens effectivement d'un apaisement pour les Russes que ce conflit-là soit réglé. De la part de Moscou, ça a été aussi assez clair, c'est-à-dire Moscou s'est prononcé pour que le Donbass pro-russe reste au sein de l'Ukraine d'aucune manière. Donc Moscou a donc à réitérer une fois de plus sa position. Elle n'a aucune espèce de vue en vue d'annexer ces régions, contrairement à la Crimée. La Crimée, c'était une autre histoire. Et c'est dans ce contexte que Merkel et Hollande sont intervenus. Le contexte avant tout, c'était aussi l'épisode militaire. C'est-à-dire qu'une fois de plus, les troupes ukrainiennes ont été en très très mauvaise posture. Et quelque part, ce cessez-le-feu, c'est aussi une manière de sauver le peu qui restait de troupes ukrainiennes en état de marche, indignes de ce nom. C'est le problème de l'Ukraine. Qui se veut jusqu'au boutiste, qui veut récupérer ce terrain des pots russes. La réalité, c'est que tous les ordres de mobilisation, à en croire les différentes ONG sur place, 70% donc des gens répondent, mais 30% se cachent et ne veulent pas être mobilisés. Ce n'est pas rien, 30%. Un appelé sur trois refuse la mobilisation et les autres, on sent bien effectivement, c'est pas par gaieté de cœur qu'ils acceptent d'être mobilisés dans cette armée dont ils savent effectivement qu'elle n'est pas préparée et dont ils ne sont pas motivés pour aller récupérer cette région. Donc la voie militaire, c'est une impasse. Les seuls qui poussent sur ce terrain-là, on l'a vu une fois de plus, ce sont les États-Unis d'Amérique. Hein. Le Congrès s'apprêtant à voter une aide substantielle au gouvernement ukrainien en vue de lui fournir des armes, et là aussi la Russie a fait savoir que ce serait un casus belli, et auquel cas effectivement ce plan de 2 milliards de dollars d'aide express au gouvernement ukrainien d'armes somme toute sophistiquées amènerait donc la Russie à se repositionner concrètement vis-à-vis du conflit ukrainien et à engager ses troupes sur le sol ukrainien. Donc on est d'un côté monté d'un cran dans l'intensification vers une guerre qui se voudrait totale et qui est dans l'intérêt certainement géostratégique des États-Unis. Et de l'autre côté, on a vu donc cette initiative qui a fort déplu d'ailleurs aux Anglo-Saxons, pas seulement aux Américains mais aussi aux Anglais et aussi aux alliés américains, aux Polonais Donald Tusk et d'autres, de la part de Merkel et de la part de Hollande. Alors Merkel, elle s'est rendue compte que son patronat poussait aussi en disant que les intérêts allemands commençaient effectivement à être atteints avec ces sanctions à répétition contre la Russie et poussait dans ce sens effectivement de vouloir calmer le jeu, de ne surtout pas suivre un peu la position militariste et juste-boutiste des États-Unis d'Amérique.
Oui, et puis il y a un sujet peut-être plus préoccupant, plus brûlant pour les médias des affaires financières européennes, et ben c'est la Grèce.
Oui, bien entendu. Alors,
Merkel a beaucoup de travail en ce moment.
Tout à fait.
Ouais. Pas elle seule. Hein.
C'est la commission sur elle, ensemble qui a.
On l'accuse elle personnellement de tous les maux. C'est peut-être parce que c'est une femme, je sais pas, mais alors que c'est un ensemble du système européen qui est en cause, et avec à leur tête effectivement la puissance économique allemande.
Oui, et les intérêts allemands qui ne correspondent plus à l'intérêt de la globalité des pays membres. C'est surtout ça le souci.
Alors sur la Grèce, on embraye
la Grèce,
là, oui.
Vous y êtes, donc on va y rester parce que c'est le deuxième grand sujet du jour quand même. Donc un accord, on ne savait pas ce que l'Union européenne se passerait aujourd'hui. Alors il y a eu un accord de report de 4 mois de l'aide financière. 4 mois, ça mène pas loin, ça mène au mois de juin. Moyennant des réformes que, bon, on imagine mal d'ailleurs qu'elles puissent être mises en œuvre avec des effets en 4 mois, mais enfin, refonte du système fiscal pour toucher les plus riches, réforme administrative contre la corruption, réforme justice et santé pour inclure plus de gens dans le système, exclu actuellement. Le SMIC, enfin le salaire minimum qui passerait de 580 à 750 euros. Bref, voilà le contenu. Il reste demain à ce qu'il soit avalisé par l'Union européenne. C'est les propositions de Tsipras. Maintenant, il y a aussi des gens en Grèce, des gens qui estiment que s'engager dans cette voie, c'est déjà trahir le vote qui a été obtenu il y a une quinzaine de jours et que il conviendrait d'être plus radical que ça. On voit pas bien comment d'ailleurs les Grecs dans la position où ils sont pourraient être plus radicaux, mais c'est du moins des voix qu'on entend dans le pays, quoi. Kypras, quant à lui, est content de lui d'avoir pu négocier ça comme ça, pour connaître aussi, bien sûr, que quand on est aux manettes, c'est plus pareil que quand on est dans l'opposition et qu'il doit assumer des choses qu'il n'avait pas assumées avant, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, de toute façon, c'est Tsipras, mais c'est aussi Varoufakis, le grand homme, le ministre des Finances, et c'est lui qui essaye effectivement de voir comment faire reculer les Européens sans soi-même reculer. Alors évidemment, il y a effectivement déjà des députés Syriza, notamment on a lu une déclaration d'un député Syriza, député européen à Bruxelles, qui a dit que, bon, pour lui, il semble que c'est déjà le commencement de la fin, c'est-à-dire que la reculade est amorcée et que c'est presque une trahison du vote électoral. Bon, c'est peut-être une voie solitaire, mais il y a un débat, effectivement, qui était en filigrane dans l'élection en Grèce, qui est d'ailleurs un débat qui est européen. On le trouve par exemple avec toutes les campagnes qui sont faites, je pense en Europe, par attaque, contre la légitimité de la dette. Ce qui veut dire qu'une partie de la dette étant illégitime, on n'a pas à la payer. Or, les Grecs, ils ont voté là-dessus aussi. Ils avaient cru comprendre que le gouvernement allait effectivement limiter les remboursements de dettes à ce qui serait estimé légitime. Or, maintenant, le discours est beaucoup plus vague. Il semble qu'il ait dit que c'est simplement un problème d'étalement et puis de taux d'intérêt, mais que finalement la Grèce paierait la dette. Hein. Alors effectivement, ça doit poser un certain nombre de problèmes. Je ne sais pas comment. C'est peut-être une habileté politique, diplomatique nécessaire actuellement, mais ça peut effectivement être interprété et puis comme le début d'un compromis qui en fait équivaudrait à une sorte de recul.
Oui, alors bien entendu, au sein de Syriza, il y a plusieurs tendances, plusieurs points de vue. Celui qui a été adopté par Varoufakis, c'est celui déjà. Nous restons dans la zone euro, hein. Faut quand même le souligner, ça. C'est-à-dire, à un moment, on s'est posé la question de savoir quelle était la position exacte de Syriza vis-à-vis de l'euro. Il semblerait qu'il y ait quand même un consensus au sein de l'opinion publique grecque, hein, dans sa majorité, pour rester dans la zone euro. Sachant cela, qu'est-ce qui restait comme marge de manœuvre, donc, à Varoufakis, à Syriza? C'était celui, effectivement, poker menteur, hein, donc attention, enfin je risque effectivement de ne pas payer si vous ne me remettez pas, donc comment dirais-je, une petite ristourne sur ma dette. Et de fait, on en arrivait à quoi? On en arrivait à une, je vais pas eu dire une solution boiteuse, c'est-à-dire quelque part. Et la Commission et Syriza ont gagné du temps, hein, avec ce compromis qui est, on voit, un peu boiteux. C'est-à-dire maintenant, c'est à Syriza, vis-à-vis de ses électeurs, de justifier un peu sa position. Et c'est aussi la Commission qui, la première fois, hein, a lâché aussi vis-à-vis des pays membres qui sont créanciers, quoi. Donc ce n'est pas rien. Donc tout reste à faire, hein, sur ce sujet. Alors maintenant, quelle politique, c'est celui d'une remise partielle de la dette ou c'est celle d'un, on s'engage à rembourser dans sa globalité la dette, mais pour l'instant, vu qu'on fait de l'excédent budgétaire, on veut cet argent, donc, le réinvestir dans le développement productif, relancer la machine, et on s'engage quand même à terme à rembourser la dette qu'on a contractée. Donc bon, est-ce qu'on va voir effectivement dans le temps si c'est faisable, mais toujours est-il que pour l'instant, en l'état actuel, des deux côtés, hein, surtout de la part des médias dits dominants, effectivement, on crie effectivement à la victoire de la Commission, parce que là aussi, ça fait partie un peu de ce poker menteur, hein, pour l'instant. On ne sait pas exactement, hein, puisque c'est à l'état du document qui a été pré-signé, c'est à l'état secret, hein, pour l'instant, on ne sait pas exactement les clauses qui ont été dictées par la Commission et ce que, de fait, Varoufakis a accepté. Donc on en sort un peu plus déjà à la fin de ce mois, là, le 28, avec apparemment la Commission doit valider, hein, ce qui a été négocié, et on en saura plus si c'est validé dans les mois qui vont venir. Mais pour l'instant, c'est à voir, quoi.
Oui, c'est un sujet qui est loin d'être clos. On va forcément reparler bientôt. Allez, là, j'ai un sujet sur lequel je vais lancer Michel. Je suis sûr qu'il va démarrer comme une flèche. Voilà que Blair est embauché comme conseiller du gouvernement serbe pour réformer le pays et payé par les Arabes Unis. C'est gratiné, ça.
Oui, c'est les grandes nouveautés. Bah, on l'a vu avec notre ancien président de la République, hein, avec ses accords bilatéraux avec le Qatar et ces facilités-là. Alors que penser d'un pays ruiné comme la Serbie, qui va bouffer à tous les râteliers? Alors oui, depuis maintenant quelques années, faute d'avoir de l'investissement occidental et surtout de pays membres de l'Union européenne, le gouvernement serbe d'Aleksandar Vučić s'est tourné donc vers le Golfe et notamment vers les Émirats Arabes Unis. Alors là aussi, c'est bon. On sait bien que concernant Tony Blair, hein, c'est le Sarko britannique. Hein, il bouffe à tous les râteliers. Dès qu'il y a de l'argent, il est là. Il va prendre. Hein,
oui, puis c'était quand même un des bombardeurs de
bien entendu. Mais oui, bien entendu. D'où effectivement, le contribuable serbe ne va pas payer. Ce sont directement les Émirats Arabes Unis. Donc qu'est-ce qui se cache derrière ça? Voilà, on achète une fois de plus de l'influence. N'oublions pas que ce même gouvernement serbe, il y a encore un peu moins d'un an, avait comme conseiller aussi économique un certain DSK. Hein, dans ces mallettes. Donc, quelque part, on pense, en payant grassement ces gens, pouvoir s'acheter leur carnet d'adresse et pouvoir drainer de l'investissement qui fait cruellement défaut donc, à l'économie serbe qui est exsangue et qui est totalement déprimée. Et donc, ce gouvernement donc, a besoin, donc, en gesticulant comme ça, en faisant parader les grands de ce monde vis-à-vis de son en opinion publique, de montrer effectivement qu'il est actif. Mais pour l'instant, on est juste dans de la communication pure. Hein. Concrètement, sur le terrain, il n'y a pas grand projet donc, pour relancer l'emploi qui voit le jour.
Mais là, c'est quand même un pays qui était proche, qui reste proche, malgré cette évolution politique de ses responsables, de la Russie. Et la Russie, semble-t-il, n'est plus en état de faire des prêts à raison de la chute du cours du pétrole. D'ailleurs, on a dit même à un moment que les Grecs, si l'Europe continuait dans son intransigeance, eh bien ils allaient également se tourner vers Moscou pour avoir des emprunts éventuels.
Oui, c'est la position de tous les pays qui sont faibles, que ce soit la Grèce, alors encore plus faible que la Grèce, hein, n'oublions pas la Serbie. Hein, beaucoup de pays des Balkans sont dans une position aujourd'hui par rapport à leur passé où ils représentaient somme toute une puissance hein, moyenne qui était la Yougoslavie titiste, aujourd'hui sont totalement isolés, affaiblis. Que dire de la Serbie? Donc dans le même temps, elle est en pourparlers avec la Commission donc pour rentrer dans l'Union européenne. Alors on a annoncé 2018, mais au train où se passent les choses, il est fort à parier que les Serbes doivent attendre encore un peu plus, parce que pour l'instant, c'est pas vraiment en vogue, hein, l'élargissement au sein de l'Union européenne. Donc, dans le même temps, on est sur la voie d'intégration à l'Union européenne. Dans le même temps, on espérait beaucoup de ce théoloduc russe South Stream, mais finalement, qui, faute de financement, dû en partie aux sanctions occidentales, donc s'est arrêté. Donc, bon, on se tourne vers ceux qui veulent bien investir. Donc, il se trouve que les pétrodollars, ils ne savent plus quoi en faire. Il y a des terres agricoles dans les Balkans, et donc les Émiratis arrivent, et le gouvernement est bien content de les accueillir, surtout s'il y a peut-être quelques commissions à prendre au passage. Donc, c'est un système de corruption généralisée pour moi, c'est-à-dire qu'on est vraiment là dans l'ère de la globalisation, mais dans tout ce qui est là de nauséabond, dans le sens où plus personne, je parle en termes de citoyens, les citoyens serbes ne contrôlent plus du tout ce que font leurs dirigeants. Et leurs dirigeants ne répondent plus du tout aux yeux de leurs citoyens, de leurs actes. D'où, effectivement, il n'y a pas de position qui soit tranchée. C'est cette position de, dans le même temps, maintenir une relation privilégiée avec la Russie, se tourner vers l'Union européenne, accepter, on ne sait pas trop sous quelles conditions, que les Émirats arabes unis financent donc le gouvernement, hein, directement, c'est ça. Donc c'est accepter aussi qu'ils aient de l'influence directe ou indirecte sur le gouvernement. On le voit partout dans les Balkans. Le Monténégro, c'est exactement la même chose, hein, puisque au Monténégro, vous avez, qui est une sorte de paradis fiscal, hein, n'oublions pas, vous avez l'ancien premier ministre thaïlandais qui a acheté d'énormes propriétés et des infrastructures touristiques. Vous avez des anciens hauts responsables de l'autorité palestinienne qui sont recherchés actuellement par le gouvernement de Mahmoud Abbas pour corruption active, et qui sont citoyens monténégrins et qui ont largement investi avec l'argent dont on sait qu'il a été détourné aussi, certainement en plus de subventions européennes ou onusiennes ou autres. Donc on a dans ce marasme-là une sorte, je peux me permettre, de corruption qui touche les petites couches à travers la mafia locale, mais aussi les plus hautes strates, donc des dirigeants politiques dans tous les Balkans quasiment, hein. Là je parle de Zagreb et pour aller jusqu'à Athènes, hein, car la crise grec, hein, là, c'est aussi la crise effectivement de toute une partie de gens qui en leur temps n'ont pas payé l'impôt, qui n'ont pas payé au niveau auquel ils devaient le payer. Donc c'est aussi la conséquence de ça. Ça n'explique pas tout, mais en gros, il y a un grand marasme quand même dans toute cette région.
Voilà. Robert, autre sujet que tu as en tête ?
Je vais parler du Venezuela, parce qu'effectivement, on en parle peu dans les médias occidentaux, où quand on en parle, c'est pour dire du mal du Venezuela, plutôt de son gouvernement. Même la mort de Chavez n'a pas fait taire cette conception très négative que la presse occidentale porte sur ce qui se passe au Venezuela, et plus généralement également dans d'autres pays comme l'Équateur, sans parler de Cuba, qui c'est autre chose, Cuba. Il s'est trouvé que la semaine dernière, pratiquement, il y avait la réalité d'un coup d'État en préparation, et il a été jugulé d'une manière assez subtile, puisque il n'y a pas eu d'affrontement, par exemple. On n'a pas vu immédiatement une partie de l'armée se dresser contre l'autre partie de l'armée. Des officiers supérieurs ont été arrêtés. Aujourd'hui, enfin ces jours-ci, on a appris que du côté des civils, c'est pas la première fois d'ailleurs que le maire de Caracas en tête appelle à la révolte. Or, bon, la révolte, compte tenu qu'il y a eu depuis un an un certain nombre de manifestations de rue dont on a vu qu'elles étaient souvent téléguidées par des gens d'ailleurs qui n'avaient rien à voir avec la réclamation que peut-être légitime que portaient des gens, même si c'était plutôt les classes moyennes qui descendaient dans la rue au Venezuela. Mais il y avait une manipulation et il y avait déjà un projet de rééditer une sorte de... Le signal, ce serait un bombardement. Il y aurait un avion, un peu comme si l'expérience chilienne allait se renouveler. Un avion devait bombarder, alors je sais pas quoi, parce que c'est pas effectivement, c'est pas forcément la résidence de Maduro, qui effectivement a pris ses précautions, peut-être par rapport à l'époque d'Allende, qui bon, on n'est pas du tout dans le même contexte. Toujours est-il que, bien aujourd'hui, un certain nombre de civils, dont je l'ai dit tout à l'heure, le maire de Caracas, a été arrêté. Et d'autres civils de cette droite extrême politique qui a jamais accepté finalement la victoire de Maduro, prétextant comme d'habitude qu'il y avait une manipulation électorale, etc. Alors il est vrai que toutes les forces progressives de la planète y compris surtout chez les Amérindiens, ont été déçus de la faible marge. Parce que les sondages, au départ, enfin même encore une semaine avant, donnaient Maduro avec 3-4 points d'avance, et puis finalement ça s'est résolu, ça s'est réduit à peu de choses. Donc effectivement, la droite dure en avait profité pour dire non, c'est pas clair, il faut refaire les élections. Les Américains, finalement... en coulisses les soutiennent, mais officiellement disent non, faut reconnaître la légalité de cette élection. Bon, mais les Américains là aussi jouent sur les deux tableaux. Hein. Il y a les services secrets d'un côté, et puis il y a la Maison Blanche de l'autre. Et c'est pas du tout forcément contradictoire dans leur démarche. Voilà. Alors donc inquiétude sur le Venezuela, d'autant que le Venezuela, comme la Russie et comme les pays producteurs de pétrole, je pense à ceux qui effectivement mettent le produit du pétrole au service du peuple, c'est-à-dire avec faisant des hôpitaux, faisant de l'alphabétisation. On parle pas des pays du Golfe qui eux l'argent il va pas vers les peuples de toute façon. Bon. Et donc au Venezuela, il y a, c'est la réalité, il y a forcément des problèmes liés à cette réduction des produits pétroliers, mais il n'empêche que pour l'instant les structures sont pas bloquées, que ça fonctionne avec peut-être effectivement moins de facilité pour un certain nombre de classes moyennes, des gens qui avaient l'habitude d'aller facilement à la pompe chercher de l'essence et qui sont obligés de faire la queue ou pour aller chercher des produits. Alors ils disent bon ben si on fait la queue, c'est que ça va pas du tout, qu'il faut changer le système. Bon, c'est ça. Alors il est vrai qu'il y a une solidarité amérindienne qui va jouer avec l'ALBA, hein, cette coalition bolivarienne, qui fait que avant de le coup du Honduras ne se reproduira pas, parce que effectivement les pays comme l'Équateur et même les pays plus modérés comme le Brésil ne veulent pas que ça change au Venezuela. Donc la solidarité va jouer, et politiquement les Américains et Obama sont obligés de faire avec. Mais les services secrets, hein, eux, ils ont aussi leur propre dynamique entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre Obama devant un fait accompli, et ça serait pas la première fois.
Après tout, Obama, il a juste un mandat de 4 ans. C'est en plus, l'Amérique éternelle. C'est celle des oligarques, celle qui, effectivement, défend les intérêts supérieurs, hein, de l'oligarchie états-unienne depuis maintenant, depuis la doctrine Monroe, depuis près d'un siècle.
Hein. Voilà, on va garder un peu de temps pour le national. On peut peut-être dire encore deux mots de situation au Moyen-Orient. Le charte de Gaulle arrive pour partir en guerre contre Daesh, donc doit-on déduire que c'en est fini de Daesh ?
Écoutez, Charles de Gaulle, quand il n'est pas en cale sèche, on est content, effectivement, de lui attribuer un semblant de mission. Si les États-Unis, qui se flattent déjà d'avoir eu, si je ne dis pas de bêtises, 12 000 sorties depuis leur implication, 12 000 sorties pour combattre Daesh, une armée qui n'a pas de char, qui opère dans un milieu qui est désertique, qui a découvert avec les milieux sophistiqués qu'ont les États-Unis, et de nous dire encore que ce conflit va durer 10 ans, moi je me pose toujours la question de savoir quel est l'ennemi, quel est le but de guerre, et si ce n'est pas effectivement d'avoir un grand polygone militaire et de s'en donner à cœur joie et de déverser ces bombes. J'ai pas du tout l'impression que le but militaire, c'est réduire Daesh le plus rapidement possible. Je pense que Daesh, c'est un feu. Alors, on veut pas qu'il prenne des proportions monstrueuses, mais il couve, et tant qu'on en a plus ou moins le contrôle, on est bien content de l'alimenter. Je pense que c'est réellement ça, la position occidentale. Alors bon, que font les Français? Les Français sont juste des supplétifs des États-Unis, donc ils sont dans leur rôle de supplétifs, et quand on leur demande de faire, ils font là où on leur demande de faire. C'est ce que fait notre gouvernement actuellement dans ce dossier-là.
Voilà, pause musicale. Ouais. Allez, on l'a fait sur fond d'actualité d'il y a 50-60 ans aussi.
Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement: bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant.
Voilà, vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. L'illustration musicale, il s'agissait du poème d'Aragon mis en musique interprété par Ferré, la fiche rouge. Pour commémorer le 21 février 44, donc 71 ans, l'assassinat des 23 membres du groupe manoukéen, les résistants FTP Moy, à Paris. Pendant qu'on en est dans les commémorations, on va citer aussi Henri Martin qui vient de décéder, lui, à 88 ans. Henri Martin, ça ne dit pas grand-chose aux plus jeunes. C'était un résistant qui est rentré dans l'armée en 45, qu'on a envoyé au Vietnam, qui s'est rendu compte qu'il n'était pas question pour lui de faire de l'anticolonialisme, et dans le cadre de l'armée, il a voulu donc militer, s'est démissionné. Il a fait 3 ans de prison, et il y a eu à l'époque une énorme mobilisation en France pour lui. Depuis, cet homme a passé toute sa vie à lutter contre le colonialisme, et il est décédé la semaine dernière. Alors, rubrique nationale de ce Canu Info. Oxane, tu disais, Robert, avec les révélations qu'on apprend aujourd'hui.
Oui, on pourrait peut-être commencer par ce jeu, la télévision, qui veut gagner des millions. Qui veut gagner des millions, hein, je crois que c'est un jeu à la télé ou à la radio, je ne sais plus. Et bien, pour gagner des millions, il suffit d'être candidat à la présidence de Sanofi, et puis ensuite, garantie 2 fois 2 millions pour le nouveau patron de Sanofi. Alors Sanofi gagne beaucoup d'argent, mais plutôt que de le donner à ceux qui produisent, par leur travail, qui produisent les bénéfices, eh bien, ils le donnent aux actionnaires ou à leur cadre supérieur, ou ils achètent un PDG à Bayer en lui souhaitant la bienvenue. 2 fois 2 millions d'euros à ce monsieur Olivier Brandicourt, c'est son nom. Et voilà, ben c'est comme ça que vit aujourd'hui le capitalisme dans tous ses excès les plus notoires.
Oui, les salariés, les syndicats réclamaient une augmentation de 120 euros par an. Ben voilà, quoi. Qu'est-ce que c'est à côté de la prime de ce PDG pour être embauché, en plus de son salaire, de ses actions et de tout ce dont il bénéficiera, quoi. Mais il n'est pas tout seul. Hein. Dexia, qui s'est illustré par ses forfaitures financières, a aussi embauché un directeur financier avec 500 000 euros de prime il y a 1 ou 2 ans. Quoi. Puis je ne vous parle pas des footballeurs qui, eux aussi, quand ils ont la bonne idée de changer de club, tous des sommes astronomiques.
On ne va pas s'en offusquer. C'est dans la nature même du financier, hein, ou de ces grands groupes, de payer, surpayer, les fameux Golden Hello, Golden Parachute, et j'en passe, des actions de bienvenue, enfin bref, tout ça on le connaît. Ce qui a surtout remarquable, c'est que ça perdure. Ça fait déjà 10 ans qu'on dénonce un peu ces dérives du grand patronat, du milieu financier. Ça fait 10 ans qu'on nous promet de régulariser hein, ce milieu-là. Et au jour d'aujourd'hui, on nous fait croire que c'est les financiers qui vont s'auto-régulariser d'eux-mêmes et qui vont, comment dire, amener un peu d'éthique hein, dans le métier. On voit qu'il n'en est rien. C'est-à-dire que dès lors que le politique n'accepte pas de faire le travail qui est le sien, celui d'être nommé par le peuple et de légiférer et de régulariser, on peut s'attendre qu'à ce type de dérive.
L'ancienne patronne du MEDEF avait laissé croire que si elle était réélue, elle mettrait un peu d'ordre là-dedans.
Bon, bien sûr.
De toute façon, du coup, elle n'a pas été réélue.
Oui.
Si tant est qu'elle avait vraiment la volonté de le faire.
Hein. Oui, sur son mandat, elle n'a rien fait. Hein.
Oui, de toute façon.
Bien sûr.
Puisqu'on était chez les banquiers, eh bien, on va parler de l'activité brillante de nos grandes banques, qui s'appellent aussi bien Crédit Agricole, Société Générale, Banque de Paris et des Pays-Bas, ou Banque Populaire, Caisse d'Épargne, qui spéculent sur les matières premières agricoles. Et qui fait que ben maintenant on a des mouvements non maîtrisés et qui ne correspondent pas du tout ni naturellement aux besoins en domaine de production alimentaire de la planète et correspondent pas du tout dans le rapport de l'offre et de la demande. Alors ces banquiers ont spéculé là-dessus. C'est dans un rapport, l'ONG Oxfam, Oxfam France, parce que là, on parle des banques françaises, mais on peut bien penser que les banques allemandes ou autres font le même type de travail, c'est-à-dire participent à un peu plus de misère pour les 800 millions de planétaires qui sont soit en souffrance de nourriture, soit en malnutrition, bon, etc. Alors, Oxfam avait alerté il y a 2 ans déjà sur cette question-là du comportement des banquiers. Et certains banquiers en ont tenu compte. En fait, on nous dit qu'un seul banquier en a tenu compte, c'est le Crédit Agricole, qui aurait liquidé son fonds de placement qui justement spéculait sur les matières premières agricoles. Les autres, ben, ils en ont profité pour récupérer la part que le Crédit Agricole avait abandonnée. Bon, ça veut dire que rien n'a changé, puisque aujourd'hui, la totalité de ces fonds, qui étaient de 2,5 milliards d'euros il y a 2 ans, sont passés déjà à 3,5 milliards. C'est-à-dire que loin d'être résorbé, ce comportement spéculatif des banques, eh bien, il s'est plutôt aggravé. Sur cette question, je pense qu'il faut dire d'autres choses.
Oh non, c'est bien. Oui. on peut dire un mot d'Areva, je ne comprends pas bien. Areva serait en crise, ils auraient un déficit de 5 milliards d'euros. Qui est supérieure à leur valeur en bourse. Et Areva, c'est 87% l'État qui est actionnaire. Et je comprends pas bien pourquoi Areva, qui est la filière des matières premières du nucléaire, hein, l'approvisionnement, le traitement, pourquoi ça tombe sur Areva, cette affaire? Est-ce que tout le monde ne s'est pas mis d'accord à GDF et ailleurs pour tout mettre sur le dos d'Areva, puisque c'est l'État, et engranger les bénéfices par ailleurs? Enfin, il faudra étudier le dossier de plus près, mais on veut bien croire qu'ils avaient fait de mauvaises acquisitions avec les mines et autres. Quand même, on a surtout l'impression que le secteur privé veut faire recapitaliser à hauteur du déficit cette société par l'État, quoi. Ben, pendant qu'on est dans les sociétés en difficulté, là, ça semble, c'est plus petit, mais c'est plus grave. Les atelières, hein, qui à Lyon, Villeurbanne, étaient reparties à partir des anciennes de Lejabi pour essayer de créer une filière lingerie féminine française, finalement, ont dû déposer le bilan. Alors, peut-être d'un contexte pas très favorable, une gestion aussi difficile, mais peut-être aussi que, comme on a connu ça avec Lip en d'autres temps, le système capitaliste supporte très mal les francs-tireurs de cet ordre-là qui tendent à faire des sociétés quelque peu coopératives et que, quand on peut les couler au lieu de les aider, eh bien, on ne s'en prive pas, quoi.
Sinon, on peut évoquer le nouvel ordre, c'est comme ça qu'il l'appelle, hein, le nouvel ordre social de M. Emmanuel Macron, après l'adoption dans les conditions que l'on sait, c'est-à-dire l'application force de l'article 49.3 de la loi sur la poursuite des privatisations, du démantèlement des acquis sociaux. Dès mercredi, Valls, pour sauver un peu la face, va réunir syndicats et patronats pour discuter, en quelque sorte, de comment on applique les lois Macron. Enfin, comment, à part des décrets d'application, essayer de répondre à ce démantèlement social, que ce soit sur le temps de travail, que ce soit sur le chômage, que ce soit sur les retraites complémentaires. Il y a toute une série de dossiers là, et que Macron a largement ouvert pour permettre effectivement qu'on aille un peu plus loin pour soi-disant faciliter le travail des investisseurs.
C'est
Des investisseurs, oui. J'ai pas de...
Non. Sur les éoliennes, cette information un petit peu étonnante, il y aurait un amendement au Sénat visant à porter la distance des éoliennes à construire des habitations de 500 mètres à 1 km. Ça met le lobby des éoliennes très en colère, ça paraît-il, ça va stopper leur projet, entraîner des licenciements, des arrêts de chantier... La société qui regroupe tout ça, qui défend les intérêts de ce lobby, c'est France Énergie Éolienne, prétend représenter 11 000 entreprises. Enfin, en Allemagne, la distance est à 1,5 km, en Angleterre aussi, des habitations. Et apparemment, ils ont de bonnes raisons de le faire. Enfin, si vous avez été proche d'une éolienne, la nuisance sonore est considérable. Et je suis pas sûr que ce soit une atteinte à l'écologie que d'imposer une distance minimale d'un kilomètre des éoliennes des habitations. À voir, donc. Les CGTFO sont très mécontents des conditions dans lesquelles ils doivent négocier avec le patronat, indépendamment du contenu qui dure égratigné. Ils en ont marre d'aller au MEDEF et ils réclament un lieu neutre pour ces négociations. Le Conseil économique et social ferait leur affaire. On peut les comprendre, on n'est jamais complètement à l'aise quand on est chez un invité comme le MEDEF, qui est bourré d'arrière-pensée. D'autres infos, Robert, tu voulais évoquer le petit compte-rendu de Prime Vert. On avait un envoyé spécial à Prime Vert hier. Qu'est-ce qu'il faut dire?
Prime Vert annuel de... Oui, effectivement, j'y étais. J'ai pas honte de le dire. Parce qu'il y a certains militants qui pensent qu'il faut maintenant boycotter ce genre de lieu où la marchandisation l'emporterait sur ce qu'était l'éthique de changer la société. Bon. Je trouve que ça n'a pas tellement changé, qu'il y a effectivement beaucoup de marchands, on va employer le mot. Hein. Si on veut être biblique, on dira qu'ils n'ont pas été chassés du temple, qu'ils viennent peut-être plus nombreux encore chaque année. Mais alors que certains se cachent, en fait, cachent des comportements hors de Prime Vert, qui les cachent peut-être... des activités commerciales traditionnelles lucratives ou pas, mais qui n'ont rien à voir avec un projet de changer la société. Bon, il y a sûrement ça. Moi, j'ai été content de trouver à l'entrée au moins encore plein de stands où des militants sont là, se battent, soit sur le plan politique, soit sur le plan associatif, pour... que le combat continue pour changer cette société. Alors bon, j'en dirai pas plus parce que c'est bon, je crois que c'est le tort, si j'ai bien compris, hein, de Prime Vert, mais il s'est installé à Eurexpo, donc dans la banlieue lyonnaise, et ça doit coûter sûrement très cher. Donc ça veut dire que, par exemple, faut payer une entrée. Bon, il y a une époque où on entrait sans payer dans ce genre de salon. Bon, maintenant, tous les salons sont payants. C'est vrai dans le business, mais c'est également vrai à Prime Vert. Bon, ben c'est... Alors, pour l'anecdote, hein, ils avaient fait trois catégories de prix d'entrée. Selon que t'es pauvre, t'es moyennement pauvre ou moyennement riche et riche. Ça s'étalait entre 6, 8, et 10, je crois, me souvenir. Oui, ça doit être ça. Bon. Je me demande si c'est pas d'un goût douteux. Mais enfin, tant mieux, hein, tant mieux, parce que vaut mieux mettre, si on n'a pas de sous, 6 euros que d'en mettre 12. Bon, voilà. Bon, des petites choses comme ça. Hein, c'est Eurexpo. Bon. je sais pas, mais je,
oui, non,
Jean-Pierre,
bah, on peut quand même dire que
les années précédentes aussi,
oui, donc, que subsiste quand même, enfin c'est dans un drôle de mélange, mais enfin subsiste quand même un tas d'activités militantes, de présentations militantes, de conférences militantes au milieu de ce marché business de produits divers et variés, quoi. Mmh.
Mmh. Mais c'était dimanche, hier j'y suis allé. Alors, d'ailleurs toi-même, tu dis que le samedi, les gens ils vont faire le marché, puis s'ils y retournent le dimanche, c'est plus pour discuter, se balader, mais pas forcément acheter. Effectivement, hier j'ai vu peu de gens sortir avec des cabas ou des caddies pleins, ça il n'y en avait pas. Hein. Et même ceux qui avaient des petits sacs, il n'y avait pas grand-chose dedans à mon avis. Donc c'était pas hier une journée de marchandisation du salon, m'a semble-t-il.
Voilà, ce Canu Info se termine, il sera diffusé demain matin. Il n'y a pas de raison que vous ne le trouviez pas sur Internet un peu plus tard ce soir et dans les jours qui viennent. Et nous vous souhaitons une bonne soirée à l'écoute de Radio Canu. Ne quittez surtout pas l'antenne, vous saurez tout sur Marius Jacob.